Alors Karine Lavigne est dans le studio de Radio Campus, c'est une première pour elle, on l'a dit pour tout à l'heure, et c'est aussi une première pour Traverse, puisqu'elle inaugure aujourd'hui sa chronique psy mensuelle. Elle a choisi de nous parler aujourd'hui du livre de Michaël Larivière, paru aux éditions Stock, « Que font vos psychanalystes ?». Pour se lancer dans un tel sujet, bien sûr, il faut le maîtriser, alors je rappelle que Karine Lavigne est psychanalyste, psychothérapeute et psychologue clinicienne. Karine Lavigne, on y va.
Il s'appelle Michaël Larivière. Il est philosophe et psychanalyste, il vit et travaille à Strasbourg. Cet homme que je ne connaissais pas avant de le lire a publié en début 2010, donc aux éditions Stock, dans l'excellente collection que dirige Anne Dufour-Mantel et qui s'appelle « L'autre pensée », un ouvrage qui s'intitule « Que font vos psychanalystes ?». Voilà un titre que j'ai tout d'abord trouvé assez incongru. Sa formulation plurielle, « vos psychanalystes », me semblait en contradiction même avec le caractère si singulier, si personnel dont témoigne l'auteur, à la fois dans le retour qu'il fait sur sa pratique comme dans son écriture. Ainsi en est-il d'ailleurs quand il nous parle de Madeleine, un des cas évoqués dans la première partie de son livre qui est constitué justement de ce qu'il appelle des retours d'analyse, retour au pluriel, analyse au singulier. De cette femme d'une quarantaine d'années avec qui il est amené à travailler, Larivière dit ceci. « Quand je l'ai connue, Madeleine n'avait pas l'usage de sa biographie. Elle était hors d'état d'être elle-même. Elle fait partie de ces êtres, dit-il, qui ne cessent de s'engager dans des impasses, qui sont pris dans des liens inextricables, indénouables autrement que par la rupture, des liens circulaires qui enferment dans une répétition sans fin. Ces êtres, dit-il, ne peuvent pas, ne savent pas se séparer. Ils ne savent que rompre, casser, briser. » Cette femme, donc Madeleine, l'appelle un soir à son domicile pour prendre rendez-vous. On voit déjà le court-circuit, la confusion. Au lieu d'appeler aux heures ouvrables de sa consultation, elle fait en sorte de le joindre chez lui, hors travail, dans son espace privé. On apprend que Madeleine a déjà consulté deux fois, dont la première suite à une tentative de suicide dont elle a été sauvée de justesse. Son premier analyste avait mis un terme au travail avec elle, après qu'elle se soit introduite dans son immeuble pour abîmer les murs de l'entrée. Elle n'avait pas supporté qu'il lui refuse une séance supplémentaire. Michaël Larivière commente « Je savais donc à quoi m'en tenir ». Elle chercherait mes limites parce qu'elle ne connaissait pas les siennes. Il ajoute « Je lui demandais si elle s'était en d'autres occasions rendue insupportable, ce à quoi Madeleine répond « Oui, c'est plus fort que moi. Je fais monter les enchères, je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ces moments-là. Je dérape, ça rippe, je n'arrive pas à m'arrêter, je l'ai souvent payé très cher. » S'en suivent deux années agitées, marquées de constants passages à l'acte de Madeleine, période difficile, que Larivière résumera ainsi « Madeleine avait pendant près de 2 ans répété à l'intérieur du cadre analytique tous les échecs qu'elle connaissait partout ailleurs depuis toujours. Madeleine ne supporte pas tout ce qui marque une séparation, la fin des séances, le fait de devoir s'arrêter de parler, de devoir partir, quitter l'analyste, ne supporte pas l'existence des autres patients, avant elle, après elle. Elle hausse le ton, occupe l'espace, jette ses affaires par terre. Elle multiplie les coups de fil au domicile de Larivière comme à sa consultation, le contraignant à débrancher ses téléphones pour se mettre hors d'atteinte. Frustrée par cette réaction de retrait, elle se livre alors à des actes de vandalisme dans les immeubles où il vit et où il travaille. Que fait l'auteur de tout cela? Il dit « Je réagis à peu près toujours de la même manière, le plus calmement possible, et en essayant de l'apaiser, il constate « Je n'y suis jamais arrivé. Je tentais de lui rendre possible de parler de ce qui l'a poussé ainsi à la violence, rien n'y fit. » Elle prit mon calme pour de l'indifférence. Les passages à l'acte se multiplièrent, devinrent plus violents. Un soir, en quittant sa consultation, Larivière découvre que Madeleine a inscrit au rouge à lèvres sur les murs du couloir de l'entrée toute une série d'insultes et d'obscénités. « C'en était trop, dit-il. Je lui téléphonais pour lui dire que je ne pourrais plus la recevoir, que rien n'avait permis qu'elle agît autrement. Je ne savais plus que faire ni comment. J'étais à court d'idées, d'imagination et d'envie, découragée, exténuée, je m'avouais vaincu. » Il évoque alors la réaction de Madeleine à cet aveu. Elle en fut sidérée. Timidement, elle me dit comprendre, me donna raison, et me demanda de lui accorder une dernière chance. Il accepte et constate alors. À partir de ce jour et contre toute attente, tout changea. Plus le moindre passage à l'acte, plus de violence, plus de coups de fil intempestifs. Larivière fait l'hypothèse que, dans ce cas précis, l'aveu de son découragement et de son impuissance permit la mise en place de limites, car, dit-il, l'assignation de ces limites procédait non d'une position d'autorité, mais de la reconnaissance d'une impasse. où ils étaient en fait enfermés tous les deux. Je ne sais si cette hypothèse est juste, conclut-il. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a pu poursuivre son travail jusqu'à son terme. Elle a pu reprendre des études qu'elle réussit brillamment, puis elle se remaria. Elle mit un terme à l'analyse un mois avant d'accoucher. Si j'ai voulu vous dire un mot, ma foi, très succinct de ce livre et de cette histoire, c'est qu'il traite de ce dans quoi un analyste peut se trouver engagé, de ce que peut être son métier. La rivière se questionne à propos de ce cas comme à propos d'autres, il questionne son acte. « Pourquoi avoir accepté de m'engager dans ce travail ?» dit-il en évoquant Madeleine, ce à quoi il répond. « Il y avait l'envie d'y croire. Il y avait encore que c'est dans ce type de rencontre que prend tout son sens la question de savoir ce qui nous pousse à vouloir faire ce métier. Et ces cas qu'on dit « limite » nous obligent plus ou mieux que d'autres à l'affronter. » Pour conclure, je dirais que dans notre société postmoderne, comme on l'appelle, la psychanalyse a un statut tout à fait paradoxal. Elle est à la fois très présente, à travers une grande vulgarisation de ses thèmes et de ses termes, et en même temps elle est souvent déniée et attaquée. Face à ce paradoxe qui brouille la vue et les idées, j'ai eu envie d'en revenir à ce qui pour moi est l'essentiel de la psychanalyse, à savoir une pratique, une rencontre entre deux êtres uniques et singuliers, une expérience. Oui, une expérience profondément humaine. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de rêves.